Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle sur IDFM Radio. Je suis heureuse de vous retrouver sur votre émission culture Les secrets de la servante. Nous sommes ensemble pour donner la parole à celles et ceux qui font vivre la culture. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un art imprévisible, où rien n'est écrit, mais où tout peut arriver, c'est l'improvisation théâtrale. À mes côtés, deux comédiens du risque qui travaillent sans filet. Ils racontent des histoires qui n'existent pas encore. Grâce à eux, nous allons plonger dans les coulisses de l'impro. Esteban Perrois et Franck Porquier, bienvenue au micro des secrets de la servante.
Bonjour, merci de nous avoir invités.
Bonjour Christelle, merci de nous recevoir.
Je suis déjà en train de rire parce que ils m'ont fait une petite intro hors antenne.
Ah bon?
Oui. Je m'attends à tout. Alors, on va vous présenter à nos auditeurs succinctement, parce que je vous rappelle que normalement, on est sur une émission de 30 minutes. Normalement, je dis bien. Voilà, donc mon premier invité, Esteban Perrois, est une figure incontournable de l'improvisation théâtrale en France.
Là, incontournable, oui. Attention.
Comédien, metteur en scène, auteur, chroniqueur, animateur... T'en as encore?
Tu fais tout ça, Esteban?
Je suis pas au courant, mais peut-être.
On peut te retrouver sur la scène du Grand Rex à Paris, où tu animes les plus grosses sorties cinéma aussi.
Alors, j'anime pas forcément les plus grosses et je les anime pas toutes, loin de là. Mais j'en anime pas mal depuis plus de 20 ans, ouais.
Plus de 20 ans.
Donc des avant-premières, des marathons, des séances exceptionnelles, des hommages, tout un tas de rendez-vous cinéphiles. Pour du cinéma... souvent grand public, grand spectacle, ou des séquences un peu plus nostalgiques. Voilà, comme par exemple, dernièrement, les 25 ans, je crois, de Trois hommes et un couffin.
D'accord.
Voilà, c'était un moment assez fort.
Christelle, okay. T'as vu le ton sérieux qu'il a pris pour dire
oui,
tout ça?
Oui, c'est oui, dingue, quel hein. Ton sérieux. Je me suis dit, là, on passe du tout au tout, enfin...
Non, mais l'humour, c'est quelque chose qui doit être fait sérieusement, je pense. je me souviens, sur France Culture, en 2007, on avait évoqué une synthèse autour de la perception de l'humour à travers les corrélations sociétales qui peuvent...
Très bien.
Bon, je suis en train de déconner. Là.
Très bien.
Tu veux refaire ton intro?
Non. Et donc, à tes côtés, un comédien qui partage cette même passion du jeu vivant, c'est Franck Porquier.
Oui, c'est moi. Alors, oui, ça fait pareil, plus de 20 ans que je fais de l'improvisation. Et ça a vraiment changé ma vie. Et ça me fait plaisir d'être là avec toi, avec vous, pour pouvoir partager cette passion avec les auditeurs.
Voilà.
Et les auditrices.
Donc, vous avez développé tous les deux le goût du collectif et l'interaction avec le public.
Il faut qu'on rebondisse, là.
Comme tu veux. Vous êtes des amoureux de la scène, sous toutes ses formes, en tout cas.
Alors, oui. Alors, moi, dans l'improvisation, ce que j'aime, c'est vraiment raconter des histoires, alors, sur scène, mais même, comme tu as peut-être un peu vu avant, même dans la vie de tous les jours, on est souvent, surtout quand je suis avec Esteban, aussi un autre improvisateur, on part vraiment dans des histoires aussi pour égayer un peu les moments aussi de notre vie.
Ah ben alors, parfait. Comment vous vous êtes rencontrés, les garçons?
Alors, comment on s'est rencontrés? Eh bien, moi, j'avais avec 6 autres amis IES et IS, monté une association qui s'appelait Comédia, une association d'impro en 98. On était 7, et sur les 7, les 6 autres, et ça c'est une vraie histoire, se sont mariés entre eux.
D'accord.
Donc il y a eu 3 couples qui se sont formés, qui se sont mariés, qui sont partis loin de Paris, si bien que je suis resté ensuite tout seul. J'ai été faire un petit tour du côté de la Ligue d'impro de Paris, qui est une formidable ligue d'impro associative depuis très longtemps. Et parallèlement, j'ai remonté Comédia, et parmi mes premiers élèves, au bout de quelques années, est arrivé Franck, et qui ensuite, avec les années, tu me corrigeras Franck, s'est impliqué de plus en plus dans le développement de l'association qui est devenue l'école et qui est aujourd'hui l'école française d'impro.
Ok, donc on va parler
j'ai
juste
bon
après.
Franck.
Oui, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé, ça faisait quelques années, 2 ou 3 ans peut-être que tu faisais ça, et puis ça m'a tout de suite plu, et j'ai tout de suite dit à Esteban, moi, je veux en faire plus, et donc, événement par événement, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître, et puis qu'on s'est dit à un moment donné, allez, on s'associe et on rentre à fond dans l'improvisation théâtrale.
Alors, tu me parlais tout à l'heure qu'il y avait eu un fameux coup de téléphone.
Ah oui, alors, bah, moi comment je commence
le téléphone pleure.
C'est un peu ça.
Ou quand en fait, elle ne vient pas.
Bon, c'est le moment. Ça y est, on peut commencer à déconner là ou pas? Non, mais... Parce que le début de l'émission était très chiant. On est d'accord, Christelle?
Non, mais je te remercie.
Bah, non, pas... non, mais c'est pas que de ta faute. C'est de la mienne aussi. Non, c'est de Franck.
Sauf si t'avouais ton sérieux que c'est ta voilà. première question.
Mais non, mais c'est de la faute du technicien aussi. C'est... Là, il dit rien. Il me regarde comme ça. Il me juge.
Bon, alors pour répondre à ta question, Christelle.
Allez, le c'est téléphone. Que,
mais oui, moi, le téléphone, moi, j'avais peur à l'époque d'appeler des gens. Hein, pour, comme moi, parce que j'étais très timide. Et donc, prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un, donc là, qui était Esteban, pour pouvoir faire de l'improvisation théâtrale, déjà, okay. cette démarche était très dure pour moi. Mais bon, ça a bien matché au téléphone, tout de suite. Et le souvenir que j'ai de ce moment-là, qui a plus de 20 ans, hein, j'ai encore l'image de mon téléphone posé sur son socle, parce qu'il n'y avait pas trop de téléphones portables à l'époque.
Eh oui, pour les jeunes qui nous écoutent, sachez qu'à l'époque, il y avait des téléphones à fil.
Eh oui, et je me suis dit, et surtout la sensation de me dire, je ne sais pas pourquoi, mais ce coup de téléphone, il est important pour ma vie. C'est vraiment quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, et alors qu'à l'époque, j'avais pas l'idée d'en faire un métier, que ça allait bouleverser ma vie autant que l'improvisation a bouleversé ma vie, dont ce coup de téléphone. Mais voilà, j'ai encore ce vécu-là que je revis à chaque fois que j'en parle.
Ce moment de ressenti magique, sixième sens.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
C'était assez magique. Et moi, je me souviens, après avoir raccroché avec Franck, je me suis dit, tiens, faut que j'achète du pain.
On sentait venir la grosse bêtise. Ouais.
Sans transition, très bien. Alors, entre vous, c'est fort?
Ah bah, c'est fort, en tout cas, ça dure depuis longtemps. Mm-hmm. Hein, on va pas...
Est-ce qu'on peut dire qu'un mariage qui dure plus de 20 ans, est-ce que c'est fort ou pas? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'on est un vrai couple, avec nos vraies engueulades de couple, avec nos... alors, il y a plusieurs phases. Il y a l'énervement, le déni, et puis à un moment donné, il y a la philosophie. On accepte l'autre avec ses défauts. Et Franck, je sais pas trop, mais moi, je sais que j'en ai beaucoup. Et il m'accepte encore tel que je suis. Donc, j'imagine que c'est qu'il doit y trouver son compte quelque part, quoi.
Ça n'avait bah,
oui,
chance.
Bien sûr. Je t'aime, Esteban.
Non, arrête. Ah, arrête. Pas d'effusion en public, enfin.
Voilà. Bon, ça va, on est entre nous, personne nous écoute.
C'est alors... vrai. Ben, si. Je crois qu'il y a 17 ou 18 auditeurs, non?
Je ne sais pas. Après, il y a le podcast. Tout le monde peut nous réécouter, par contre.
Ah.
Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un accident de ski.
Oui. Ça c'est douloureux, ça.
Ça c'est une. T'as pas une petite musique un peu style faites entrer l'accusé ou quelque chose ou les dents de la mer, tu vois?
Oh, il y a des preuves là. Oui.
Alors, je contextualise le début, tu enchaînes et tu fais la fin. On a évidemment depuis toutes ces années plein d'amis dans le monde de l'improvisation, dont une ligue d'impro qu'on aime beaucoup, qui sont les Impropotames de Rumilly, qui sont vraiment une très très grosse école aujourd'hui, une des plus grosses écoles de région en Haute-Savoie, à côté. Qu'est-ce qui se passe, Franck?
Pardon, c'est moi.
À côté d'Annecy. Et donc nous sommes allés jouer. Hein, alors je parle de ça. Ouais, il y a peut-être allé 17, 18 ans, peut-être un truc comme ça.
Oh oui, oui.
Oui, le début de votre collaboration.
Ouais, c'était
en fait.
Au tout début. Mmh. Ouais.
Pas très longtemps après le début, ouais. Et en tout cas, on va jouer un match d'impro donc avec nos amis les Impropotames de Rumilly en Haute-Savoie. Et il fait beau. On joue le samedi soir et le dimanche. Eh bien, ma foi, il y a de la neige dans la montagne. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la neige? Vas-y, Franck, je t'en prie.
Et on s'est dit, allons faire du ski. Bien sûr, avec plaisir. J'adore le ski. On y va. Et ça a pas duré longtemps parce que première montée, je suis dans le télésiège et réellement, c'est vrai. Ce que je vais dire, c'est vrai. Je vois un unijambiste qui descend. Et je suis sur le télésiège, et je dis, oh, mais comment je ferais, moi, si j'avais une jambe? Et le mec, qui est super bien, hein. Il skie super bien. Bon. Et j'arrive en bout de la piste, et on commence avec toute l'équipe à descendre.
Et Franck passe devant parce qu'il est un peu casse-cou.
Oui, bon, je sais faire bien du ski. Et là, je vois une bosse au loin, je fais, oh ouais! Je vais me faire une bosse. Et je prends la bosse, et dans les airs, pareil, c'est vrai, dans les airs, mon ski se déchausse. Par la suite, on a vu que c'était la fixation du ski qui était mal faite. Bon, bref, pendant que je suis dans les airs, mon ski déchausse et
oh
donc
là, bah,
c'est un peu plus dur de raterrir avec un seul ski. Le lien avec le mec que j'ai vu avant.
Alors, j'enchaîne. Moi, je vois Franck qui est devant moi à 10 mètres, qui saute en l'air, qui part en l'air. Je vois les skis qui s'en mêlent, etc. Mais je ne vois pas qu'il perd un ski. Et derrière, j'entends « brof ». Et derrière, « ouais ».
Et donc, dans le « brof », en fait, il y avait le fait que... au lieu de tomber sur la neige directement, je suis tombé sur le ski. Mais pas sur mon plat du ski, je suis tombé sur le quart du ski.
Le côté fart, en fait.
Ce qui coupe la neige. Et donc, au lieu de couper la neige, ça a coupé ma jambe. Et donc, voilà le brac.
Aïe. Donc moi, j'arrive, je ne prends pas la bosse, parce que je suis beaucoup moins casse-cou que Franck. Je fais le tour, et je vois Franck qui allonge, qui fait « Je fais « Bon, arrête de déconner ». Je fais un dérapage, je prends la neige.
Voilà, je me prends plein de neige dans la figure, mais c'est bon.
Et il crie quand même, et je m'approche, et là... Le film d'horreur.
D'horreur.
C'est-à-dire la neige blanche, la poudreuse immaculée, le soleil qui tape, donc les reflets un peu sur les cristaux de neige.
On s'y croirait, le
sang rouge sombre qui se diffuse comme une nappe
sur la neige, ouais.
Qui vient se mettre sur la neige comme ça. Mais c'était à la fois dramatique et beau et poétique, quoi.
Ouais, je suis beau et poétique.
Ouais. Super.
Et je remonte le sang et je bouge la jambe un peu de Franck qui hurle de douleur. Et je regarde sa jambe, je sais plus laquelle.
C'est la droite.
La droite. Et je vois quelque chose que je n'oublierai jamais. Les amateurs de steak tartare au couteau doivent imaginer un peu ce que c'était. Et Franck me dit cette phrase. Alors, on en rigole parce que c'est vraiment une phrase qui m'a marqué, dont je me rappellerai toute ma vie. Donc, Franck me dit...
Est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est important?
Est-ce que ça va ou est-ce que c'est grave? Non, est-ce que c'est grave?
C'est grave. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est grave? Et là, je regarde cette plaie béante, hein. C'est-à-dire, ça a coupé les chairs, presque un bout d'artère qui se vidait et tout. C'était de la chair à vif, un tartare au couteau. Et là, j'ai un petit temps d'arrêt. Je prends un air sérieux, je lui dis, bon, on va pas se mentir, il y a une belle coupure.
Je me souviens, il y a une belle coupure du broquet. D'accord. Donc, bien sûr, je suis embarqué en barquette jusqu'à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ne comprennent pas l'urgence du truc. Ah. Parce que je suis laissé dans un couloir de l'hôpital.
D'accès aux zones de chirurgie.
Voilà. Et je sens qu'il y a de plus en plus de liquide dans ce qu'ils m'avaient fait comme pansement. Et je me doute que c'est mon sang. Et j'interpelle l'infirmière. Oui, mais... Bon, bref, elle avait mille autres choses à faire, hein, je peux comprendre. Et je l'interpelle une deuxième fois. Et là, j'ai vu son visage... Elle m'a regardé, j'ai vu son visage, elle a dit « Ouh, je dois avoir une sale tête !» Parce que son visage a complètement changé, elle m'a pris en urgence. Et quand elle a ouvert le pansement, elle a fait « Oh, je préviens le docteur !» Et je la vois sortir vite de la salle. Et réellement, 5 secondes après, je la vois revenir en tirant le bras du chirurgien qui se tourne vers ma jambe et qui fait « On prépare le bloc !» Il repart. Comme quoi, oui, c'est urgent. Je me vidais de mon sang et je me sentais partir, mourir en me vidant de mon sang.
Bon, heureusement, voilà. T'es encore là. Voilà. Oui. T'es avec nous. Oui. Tout se passe bien.
Merci aux hôpitaux.
Ce con, c'est affectif de Franck. Là, l'année dernière, on a fait un partenariat avec une grosse station de ski. On est allé jouer des impros et en échange, ils nous hébergeaient, etc. Première descente, il fait le con et bim, il se pète la jambe. Non. Et pendant une semaine, il peut plus rien faire.
Voilà, le ski ne veut pas de moi. La montagne ne veut pas de moi.
Mais non, t'as récidivé.
Alors, moins grave cette fois-ci, mais je me suis bah, classique, le ligament du genou, voilà, mon classique, là, rien de spécial.
Mais non, mais il s'est dit, ah, des mini-skis, ça a l'air cool, les mini-skis. Il avait jamais fait de mini-skis. Et puis le mec a 45 ans, il faut qu'il l'accepte. Il dit, ah, des mini-skis. Blam! Allez hop, ligament croisé. Merci, bonsoir.
La neige ne veut pas de moi.
Bon, alors on va tout de suite rentrer du coup dans le vif du sujet.
Ah bah, qu'est-ce que c'est? Un peu comme le ski dans la jambe de Franck, ouais.
Qu'est-ce que c'est que l'improvisation théâtrale? Alors c'est une véritable discipline artistique, hein, on est d'accord.
C'est une discipline artistique dont le but, dont l'objectif est d'inventer, de créer, souvent à plusieurs, sur scène, en temps réel, des histoires et de les jouer, de les incarner, de les vivre, des histoires qui peuvent être évidemment drôles, burlesques, mais aussi dramatiques, historiques, musicales, chantées, poétiques, fantastiques, aller taquiner tous les genres artistiques, littéraires et créatifs. Et alors que ce soit sous forme d'un cabaret, sous forme de, on va dire, de spectacle inédit avec chacun leur dramaturgie et leurs principes, leur fonctionnement, sous forme de matchs d'improvisation. On connaît bien les matchs qui ont été créés en 78 au Québec et qui sont arrivés en France en 78, 79, 80. Et puis les longs formats, enfin voilà, tout ce qui fait que on va mettre cette création instantanée au service de spectacles avec des mises en scène et des principes et des concepts différents. Mais la matière de base, c'est vraiment l'impro. Et j'ajouterais juste cette chose suivante, c'est que on fait beaucoup d'impro dans les cours de théâtre, dans les cours d'interprétation, mais c'est souvent de l'impro considéré comme des exercices de travail et de créativité qui sont eux-mêmes au service du jeu et ensuite de l'apprentissage pour derrière jouer des scènes, jouer des pièces, etc. Alors que là, le travail de la création instantanée avec ses partenaires et la finalité même de notre art, c'est-à-dire la création de choses que le spectateur, la spectatrice va recevoir en direct, quelque chose d'inédit, d'unique, qui se fait dans l'instant sur des thèmes du public, par exemple, ou d'un arbitre, ou d'autres tierces personnes du spectacle.
Waouh ! Donc c'est ça, c'est comment on construit une scène à partir de rien.
C'est ça. Alors, en fait, c'est jamais à partir de rien. Parce que c'est à partir de nous, c'est à partir de ce que ça nous inspire, et puis c'est à partir de notre relation avec l'autre.
Voilà. Donc, la grande différence, pour reprendre tes termes, le partir de rien, c'est par rapport au théâtre à texte. Oui, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas déjà une mise en scène qui a déjà été orchestrée par une ou plusieurs personnes. Voilà. Là, rien n'est écrit déjà, rien n'est fait, prévu. Par contre, oui, ce que dit Esteban, c'est que des fois on peut partir d'un thème du public, des fois non, des fois un lieu imposé, des fois rien du tout, mais il y aura déjà, il y a quand même quelque chose qui est nous, notre ressenti en tant qu'être humain. Même si on commence à deux aussi, c'est qu'est-ce que je vois de l'autre, de l'être humain qui est en face de moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que ça me fait ressentir, et puis inversement, qu'est-ce que lui ressent de moi, voilà. Et donc on peut partir juste de ça. Et c'est vraiment ça, l'improvisation, on part de ce qu'on ressent et des idées qui arrivent.
Et à partir de ce démarrage-là, on va, grâce à la technique, agréger une manière de dérouler le propos, d'identifier ou de créer un nœud dramatique, de créer des rebondissements, de créer le chemin du héros, de l'héroïne, de l'anti-héros, de l'anti-héroïne, etc., pour créer des choses inédites qui peuvent durer 20 secondes comme 2 heures, en fait. Voilà.
Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, il y a dans l'improvisation théâtrale, il y a quand même beaucoup d'interactivité avec le public.
Plus ou moins, ça dépend des spectacles, mais c'est vrai que à la base, le public est quand même, la base des thèmes, de sorte que on prouve aux gens qu'effectivement, c'est de l'impro.
Oui.
Puisque les gens doivent quand même voir que effectivement ça ne peut être que de l'impro, puisque c'est eux qui nous ont donné certaines catégories, contraintes ou certains thèmes à traiter. Sinon, on pourrait arriver faire une heure d'un spectacle, on leur dirait c'est de l'impro, mais ils pourraient nous croire ou ne pas nous croire.
Oui, alors tu que vois. Là, c'est le public qui donne l'idée de base ou le mot de base, et derrière vous créez une histoire. Complète.
Voilà, ça c'est selon le spectacle, mais par exemple, on a créé la boîte de Pandore, où là, on va directement dans le public poser des questions personnelles à une personne du public qui répond sérieusement ou pas, ça c'est elle qui invente. Donc on prend des infos sur sa vie, un de ses rêves, par exemple, ça peut être une question, quel est ton plus grand rêve que t'aimerais réaliser, ou ton pire cauchemar, ou des choses comme ça.
Ton souvenir le plus joyeux,
voilà.
Ou l'injustice que t'as vécu dans ta vie.
Et donc, on pose plein de, en partant de cette grosse question-là, on pose plein de petites questions sur la vie de la personne qui nous donne de la matière pour aller créer l'histoire. Et donc, on va incarner la personne qu'on a tirée au sort. Mmh. Et on va monter sur scène. Et après, l'histoire, on invente plein de... Mais ça, c'est un spectacle. Il y a plein d'autres spectacles où c'est juste un thème que le public donne. Voilà. Ça
dépend. Oui, il y a plein de manières d'aborder l'improvisation théâtrale. Et alors, tout à l'heure, tu me parlais de catégories, Esteban.
Alors, les catégories, c'est en fait un terme utilisé dans la dramaturgie du match d'impro. Les catégories, c'est une espèce de manière de pimenter la proposition improvisée, parce que l'arbitre va dire, je veux par exemple maximum 2 personnes sur cette impro, je veux que vous chantiez, je veux que vous fassiez des rimes, je veux qu'on soit au XIIIe siècle, ou au contraire, je veux voir ça à la manière d'un film existentiel d'auteur danois, ou un film de science-fiction, ou un blockbuster de super-héros, ou à la manière d'une émission de radio, etc. quoi.
Des choses plus simples, une muette. Interdit de parler, les personnages ne parlent pas. Enfin voilà,
c'est, ouais, là, c'est oui. plus compliqué de faire ça à la radio, notamment.
Voilà.
Ça va être long.
Donc voilà, c'est ça qui est bien dans l'improvisation, c'est qu'il y a plein de spectacles possibles. Il y a plein de, tu joues tout seul, tu joues à deux, tu joues à cinq. Voilà, il y a plein de choses possibles.
Et puis du coup, pluridisciplinaire, parce que j'imagine le chant, la musique, la danse, le mime, enfin tout y passe.
Alors c'est on ne peut plus vrai ce que tu dis, Christelle, et dans le binôme qu'on forme avec Franck notamment, dans l'une de nos propositions qui s'appelle le Quickie Challenge, où on va dire donner le maximum dans ce qu'on sait à peu près faire de mieux. Franck en l'occurrence bouger, utiliser son corps, faire des trucs complètement fous et délirants. Moi être plus dans la parole, la construction mentale, l'histoire que je raconte. Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont assez rigolotes.
Si tu veux, j'ai une anecdote qui me vient à la tête. Comment on a créé?
Carrément, bien sûr, ce Quickie Challenge.
Ce Quickie Challenge, alors, c'est Esteban qui parle le plus vite possible pour expliquer un petit peu ce que c'est. Esteban le parle le plus vite possible pour raconter
une question du public à laquelle on répond. Voilà.
D'accord.
Et moi, je dois tout mimer, que ça soit le personnage principal, mais tous les autres, les décors, les ambiances,
les effets spéciaux, les effets spéciaux, les coups de vent, les oiseaux qui passent,
et donc le plus vite possible aussi. Et comment on a créé ça, c'est que avec Esteban, on avait organisé une soirée dans un restaurant, on avait réservé le restaurant pour nous, pour notre école. Et à un moment donné, il y a des élèves qui nous disent « Allez, Esteban, Franck, faites-nous une impro !» Alors nous, au milieu d'un spectacle, au milieu d'un restaurant, faire un spectacle, enfin c'est comme si tu te disais un boucher « Allez, fais-moi un steak !» Comme ça, bah oui, t'es boucher de avoir fait un steak, bah non, toi, c'était pour des outils, bon. Alors, avec Esteban, donc comme on aime bien ça, on se dit « Allez, on se lance !»
On peut jouer dans un resto, mais c'est effectivement là, il y avait des tables tout autour, il y avait un bruit de fou, tout le monde avait bu, c'était le bazar intégral,
voilà.
C'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Et donc, on pose une question, allez, donnez-nous un thème, voilà, et Esteban commence à raconter, c'était pas prévu, hein, mais Esteban commence à raconter une histoire. Et c'est génial, alors je savais que moi je devais rentrer, mais je me dis, il y a un art, c'est un narrateur, il narre une histoire, ça va être dur à rentrer. Je dis non, tiens, je vais faire ce qu'il dit. C'est génial. Et donc, je commence à mimer, mais tout doucement. Et Esteban, pour me titiller un petit peu, je pense, il me dit, il commence à accélérer. Je dis, ah ouais, tu commences à accélérer. Et ben, je dis, tu sais quoi? Moi, je vais aller encore plus vite que toi, en mimant. Et donc, ça l'a fait accélérer. Et c'était génial. Mais on pensait pas qu'à ce moment-là, ça allait créer tout ce qui se crée derrière. C'est qu'à la fin, les élèves, waouh, comme des fous, comme des fous en train de nous applaudir, et on se rendait pas compte que, waouh, on avait créé vraiment quelque chose qui allait plaire.
Et d'ailleurs, on a eu la chance, par exemple, de jouer en avant-programme du groupe Trio quand ils ont fait l'Olympia.
Wow.
Vous avez proposé de faire un quick challenge, effectivement, pour en 6-7 minutes retourner l'Olympia, et ça fait partie des souvenirs assez forts de quick challenge. Voilà, je voudrais juste dire quand même pour leur rendre hommage, parce que ce sont des improvisateurs et des comédiens extraordinaires, Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli, des bonimenteurs, qui dans leur spectacle, leur grand spectacle des bonimenteurs, avaient créé l'ancêtre du Quickie Challenge, où Jean-Marc parlait beaucoup, Didier mimait et jouait les personnages, mais il y avait beaucoup plus d'interaction entre les deux, c'était plus lent, plus construit, alors que nous, on est plutôt sur quelque chose de performatif par rapport à la vitesse. Voilà. Alors qu'eux étaient dans une proposition un peu différente, mais c'est vrai que j'avais en tête cette inspiration. Il faut rendre aux grands de l'impro ce qui leur revient, en l'occurrence les bonimenteurs.
Merci pour eux. Eh bien, on va faire une petite courte pause musicale, mais on va plonger dans l'ambiance du début du spectacle Colors, dont on va parler tout à l'heure.
Ah, je pense qu'on va entendre notre ami M.
Exactement. Faites-moi souffrir. On écoute et on se retrouve.
Oui, faites-moi souffrir sur l'FM. Oh!
Qui m'aide à me dépasser. Tirez-moi les cheveux, faites-moi pleurer. Je vous en prie, ne me parlez plus. Faut m'enterrer, mais c'est tenu. Faites-moi souffrir. C'est pas si dur, ce n'est pas pire que de parler pour ne rien dire. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Mettez-moi des bêtes dans les chaussures. Laissez-moi dormir sur des surfaces dures. Il faut que je souffre, alors allez-y. Mais je vous prie d'être mes pires ennemis. Faites-moi souffrir. Vient de m'échapper. Cette fois, je peux pas la rater. Écrase ta clope sur moi. Fais-moi créer, fais-moi crier. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'idée. Soyez sans pitié. Faites-moi souffrir.
Retour sur le plateau des secrets de la servante sur IDFM Radio. Mmh. Bon, alors vous venez d'écouter Faites-moi souffrir de Mathieu Chédid, qui fait l'ouverture du spectacle Colors tous les dimanches au Splendide.
Voilà. Quelques secondes de la chanson. Ah, mais c'est avec une voix off, etc.
Super.
Oui, c'est lui. Il est là tous les dimanches aussi.
Ouais, ah, ouais. Mais tous les dimanches sur la scène du Splendide avec sa guitare pour jouer 12 secondes de son morceau. Et on le remercie d'ailleurs.
Ah, j'avais pas reconnu.
Ouais, très très sympa M. Merci
donc,
Mathieu.
Donc nous sommes toujours en présence d'Esteban Perrois et de Franck Porquier pour nous
et
parler.
Et de Franck.
Et de Franck.
Enfin
Porquier.
L'autre Franck qui fait la régie.
Et de Francky qui fait la régie bien sûr.
Voilà. Qui a souri à deux reprises et il paraît que c'est rare, c'était pas arrivé depuis 1937.
Alors cette musique, elle est vraiment à l'image de la montée d'adrénaline que vous devez avoir à chaque levée de rideau les garçons, non?
Alors, bah oui. Alors, je sais pas comment vit Esteban tout ça, mais alors oui et non, parce que en tant que producteur du spectacle, il y a plein de choses à gérer aussi derrière qui nous font oublier un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que la minute avant le rideau est fermé, justement, il y a la musique du spectacle qui commence. Voilà. Ah. Donc, tu vois, c'est très bref quand même, mais c'est quand même là. Allez, faut y aller
ça,
maintenant.
Ça monte, mais enfin, c'est le moment où on met un mouchoir dans une poche. Zut, j'ai pas fait mes lacets. Franck, faut mettre l'urne. Voilà. La lumière des disjockeys est allumée et ça va. Ah, ça y est, ça s'ouvre, le rideau, c'est parti, quoi.
Donc, moi, c'est plus une fois que je suis sur scène où on a un petit moment à Colors, on présente nos univers. Chaque comédien qui est sur scène a son univers. Et c'est vraiment là où je me dis, OK, là, allez, faut que j'aille capter tout seul. Je dois aller capter le public. Donc, c'est peut-être là, pendant ces quelques secondes où je suis face au public, où je me dis, allez,
concentration.
Concentration et j'y vais. Et c'est vraiment là où je rentre complètement dans le spectacle.
Alors, justement, ce spectacle existe depuis 2008.
Oui, on l'a créé en octobre 2008, à l'époque, dans un petit théâtre du Marais qui s'appelle Les Blancs Manteaux. Qui est un théâtre où d'ailleurs moult humoristes ont fait leur début, à l'instar du Point Virgule, et notamment, enfin je pense à Danny Boone qui avait joué pas mal aussi au Blanc Manteau, sauf erreur de ma part. Et puis on a créé ce spectacle qui en octobre 2008 ne s'appelait pas encore Colors, ça s'appelait du nom de l'ancienne association Comédia Embrase l'Impro. Bon, il y avait déjà cette notion de couleur d'embrasement, de feu en fait, d'adrénaline, d'urgence dans le spectacle. Et on est parti en janvier 2009, donc trois mois après. Au Théâtre du Gymnase, qui à l'époque n'avait pas encore été racheté par Jean-Marc Dumontet. Et nous avons joué dans la petite salle du Gymnase pendant 10 ans.
10 ans, oui.
D'accord, donc ça a cartonné, et puis ça cartonne encore.
Alors après le Gymnase, on est allé au Théâtre Michel, qui ensuite a été racheté par Sébastien Zopardi. En fait, dès qu'on va dans un théâtre, il est racheté. Et ensuite, nous sommes allés à la Pépinière Opéra pendant 2 ans, et puis bim, Covid. Tout le monde se souvient très bien de cette période riante, chatoyante.
Tout à fait.
Joyeuse, mais là, on était passé sur Internet, donc on faisait les colors sur Internet.
Une période bien particulière par rapport à l'impro. Ouais.
Et ensuite, nous sommes allés au théâtre des Mathurins. Ensuite, on est revenu dans la grande salle du Gymnase qui fait presque 800 places. Et enfin, nous sommes arrivés il y a 2 ans et demi dans le théâtre dont moi je rêvais secrètement depuis à peu près toute ma vie, le théâtre du Splendide, le fameux théâtre de la troupe du Splendide qui se trouve, comme peut-être vous le savez, Faubourg Saint-Martin à Paris dans le 10e.
Tout à fait. Mais il y a eu aussi une date au Casino de Paris, non ?
Deux. Mais ouais, on a le Casino de Paris, donc c'est un grand théâtre de 1500 places, donc c'est pour ça on a fait 2 soirées. Voilà, on n'était pas là-bas toute l'année pendant 1 an, mais on a fait deux
2008 et 2009.
Ouais.
Waouh. Au tout début, du coup.
Donc oui.
Ouais, c'est-à-dire que c'était la première date, Colors n'existait pas encore.
Ouais.
D'ailleurs, je me demande si c'était pas dans la première partie de l'année 2008, ce qui nous a mis une espèce de coup de pied au derche
pour
lancer le spectacle hebdomadaire
à l'année,
en octobre.
Ouais.
Et puis quand on est passé au Petit Gymnase et que ça marchait bien, on a fait le 25 janvier 2009. Ça, je m'en souviens.
Donc voilà, Esteban et l'encyclopédie.
Je me souviens de cette date, la deuxième au Casino de Paris, où il y avait les anciens de la Ligue de France, où il y avait les bonimenteurs, où il y avait Gustave Parking.
Et à l'époque, vous n'étiez pas connu, en fait.
Ah non, mais pas du tout.
Non.
Pas du tout.
Gros défi.
Mais enfin, on n'est toujours pas connu, d'ailleurs, hein, parce que le monde de l'impro, on se connaît tous entre nous, mais le grand public, à part Jamel Debbouze, maintenant, et puis quelques-uns qui viennent de l'impro.
Sa mère, encore, la plupart des gens ne savent pas qu'il a fait plein d'impro à ses débuts. Mais
Alban Ivanov, extraordinaire comédien humoriste qui vient du monde de l'impro.
Il y a Artus, notamment, qui est connu maintenant aussi, qui était un de nos élèves, qui a commencé.
Il est passé chez nous un peu.
Il a fait 2 ans chez nous, il a commencé le théâtre chez nous. Mais par rapport au spectacle au Casino de Paris, moi je me souviens quand on s'est dit, allez, on va se faire une grande soirée. Donc 1500 places, hein, quand même, Casino de Paris.
Oui, allez, je vais me faire une petite soirée.
Allez,
une grande soirée, 1500 places. Allez, bah tiens, j'ai 1500 potes, je vais les inviter, il n'y a pas de problème.
Et justement, on s'est dit, tiens, il y a une place, il y a une soirée, là, dans 3 mois, et je me souviens encore, le directeur du théâtre qui dit, alors...
Qui est entre parenthèses, un homme absolument délicieux, oui, très professionnel et très, très généreux, qui s'appelle Frédéric Jérôme, qui dirige aujourd'hui toujours le Casino de Paris, mais aussi les Folies Bergères. Je voulais juste le souligner parce que c'est quelqu'un de formidable.
Ouais. Et qui nous dit, bon, messieurs, vous êtes sûrs? Vous êtes sur le côté professionnel qu'on a vu à ce moment-là. Vous êtes sûrs? Parce que pour moi, je ne crois pas que vous remplissiez mon théâtre en 3 mois. Vous seriez une star. Oui, il y a des stars en une journée qui le remplissent, mais vous n'êtes pas connu. Vous êtes sûr, avec de l'improvisation à l'époque qui n'était pas connue du grand public.
Il fallait quand même balancer 30 000 euros sur la table.
Exactement.
Wow.
Pour la soirée. Et on s'est dit, bah oui. Et on a fait.
On était complètement inconscients.
Complètement inconscients. Mais on a quand même fait, et je me souviens encore, pareil, encore une image, à la caisse, 1446 entrées.
Wow.
1446 entrées. Et j'ai fait, ah ouais. Et c'était, à l'époque, c'était la première fois que je jouais devant autant de personnes aussi. Et
mon
c'est là.
Dieu.
Ou sur scène, j'ai ressenti ce que c'était un mur de son. Pour moi, jouer devant 200 personnes ou devant 1400 personnes, c'est pas plus de bruit dans les oreilles, c'est physiquement ressentir le bruit, le mur du son.
C'est comme une onde sonore qui vient vous frapper,
ouais, qui frappe sur la peau, sur la peau. Je sais ce que c'est qu'entendre un son par la peau, et c'est la première fois que je ressentais ça. J'ai fait, ah ouais, toute cette énergie physique du son qui te percute le corps.
Hyper intéressant.
Ouais, voilà, je sais.
Nous sommes toujours sur France Culture, la métaphysique du ressenti.
Mais c'est vrai.
Donc du coup, avec Colors, chaque représentation, c'est une soirée unique.
Oui.
puisque aucun spectacle ne ressemble à celui d'avant.
Aucun. Nous sommes déjà une quinzaine de couleurs dans l'équipe.
Ah oui, alors,
tourne
le concept.
Tous les dimanches.
Le concept. Pourquoi Colors?
Alors, tu veux commencer, Franck? C'est moi?
Comme oh,
tu
veux. Vas-y, vas-y.
Il y a deux concepts vraiment à l'intérieur de Colors. Le concept fondamental de Colors, c'est qu'on va inviter chaque semaine, pendant une soirée, un guest ou une guest à venir jouer en impro pendant une heure et demie avec nous, alors que ce n'est pas son métier, c'est pas son cœur de métier, c'est pas sa spécialité. Alors ça peut être un comédien, une comédienne, évidemment, ça peut être un animateur, une animatrice, un chanteur, une chanteuse, mais ça peut être aussi quelqu'un de la société civile. Le dernier exemple en tête, c'était il y a quelques mois, c'était Bob Sinclair.
D'accord.
Qui est DJ, qui est une figure connue, etc., mais qui n'est pas comédien du tout, et qui a joué Colors avec nous pendant une heure et demie, où on a eu aussi il y a quelque temps une dame qui est chroniqueuse animatrice et qui est aussi qui fait beaucoup de RP, de presse, qui est assez connue, qui s'appelle Sandra Sisley, et qui s'est jetée dans le grand bain directement, en nous faisant confiance. Voilà. Donc comment nous on va autour et avec cette personne utiliser l'adrénaline, le moment, les accidents, pour les transformer en des moments de grâce, en des moments uniques. C'est vraiment le concept de Colors. Nous sommes autour de notre invité. Et notre invité est habillé en blanc comme au judo. C'est la couleur des néophytes, des débutants, des débutantes. Et donc, on a décliné. Nous sommes des personnages de couleurs. Donc, on a Yellow ici à côté, oui, de moi, Franck. Moi, je suis Purple. Et puis, il y a Pink, Scarlet, Émeraude, Rouge, Vert, Bleu. Voilà. Toutes les couleurs qui tournent chaque semaine, avec l'invité qui tourne et aussi avec des musiciens ou des DJ en live sur scène, violoncelle, accordéon, violon, DJ, piano, guitare, etc., histoire de rendre la proposition festive.
Et c'est bien pour ça aussi, pour le public, il y a plein de gens qui sont venus nous voir plusieurs fois, même sur plusieurs années, parce que c'est jamais la même chose. Déjà, l'invité n'est pas le même, et même les couleurs, comme a dit Stéphane, on est une troupe, on est une quinzaine de comédiennes, comédiens, qu'à sa propre couleur, donc son propre univers. Et donc c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes assortiments de couleurs qu'on propose à Colors. C'est pour ça que quelqu'un peut venir plusieurs fois. Ça sera jamais les mêmes histoires.
Il y a des comme gens qui viennent vraiment plusieurs fois par an, voire tous les 15 jours ou 3 semaines. Ouais. Quoi.
Parce que ça sera jamais même aussi les mêmes thèmes que le public va amener. Donc voilà, tout ça, tous ces facteurs différents font que c'est jamais le même spectacle, les mêmes histoires.
Et puis on y passe un super moment, dire aussi. Hein. On rigole bien, on oublie tous ses soucis.
En tout cas, nous sur scène, oui.
Voilà, j'ai l'impression que les gens sont plutôt heureux en sortant de Colors. Déjà, s'ils reviennent, c'est qu'ils ont trouvé leur compte. Et puis, on a vraiment envie de partager. Enfin, je crois que dans Colors, pour le coup, ce qui se passe sur scène et dans le rapport au public et à l'invité, c'est pas du fake. Il y a une vraie générosité. Tu as vu le spectacle, Christelle.
Oui.
Il y a une vraie empathie. Et derrière le spectacle, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit resto avec qui on travaille, qui ouvre spécialement pour nous, et on propose à tous les gens du public qui le souhaitent de venir dîner avec nous, avec toute l'équipe. Donc parfois, on se retrouve à 20, 30, 40, 50, tous ensemble au resto, après le spectacle, et avec des interactions avec des gens qui sont là et qui sont avec les artistes comme une vraie bande de copains au sens noble du terme. Et franchement, ça change la configuration des dimanches soirs. On est plutôt fébrile, en train de regarder Netflix et en mangeant une pizza surgelée. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, sortez le dimanche soir, les amis. Venez au Théâtre du Splendide, venez rire, venez vibrer, venez faire
partager la
fête, dîner. Rentrez chez vous à 1h du matin, vous serez défoncé le lundi, mais au moins vous aurez vécu un truc fort la veille, quoi.
Mais ouais, puis vous serez content de ce partage, parce que c'est vraiment ça, c'est l'idée de l'improvisation qu'on a, une des idées qui nous touche, Stéphane, c'est que c'est partagé, c'est pas moi tout seul dans mon coin.
La générosité et
le derrière partage. Le spectacle, il y a aussi ça, voilà, venez partager, on ne sait pas que les comédiens sur scène qui sont soi-disant intouchables, non, on est comme vous. Allez, si vous avez envie de continuer la soirée avec nous, venez. Et petite anecdote de 10 secondes, à la fin d'un spectacle, moi j'ai quelqu'un qui est venu, je me souviens, un vieux monsieur là, qui me dit oh, votre spectacle, c'est une bouffée d'oxygène. Et ben ça, c'est aussi pour ça que je suis sur scène, pour aider ces Parisiens qui ont besoin de cette bouffée d'oxygène pour ressourcer un petit peu leur batterie. Et ça m'a touché.
Pour reprendre des forces et réentamer une semaine de boulot.
J'ai vécu dans ma vie d'improvisateur des rencontres évidemment avec notamment les anciens de la Ligue d'impro de France, des très grands improvisateurs, des très grandes improvisatrices, des gens que j'en citerai qu'une qui est Viviane Marcenaro, qui est vraiment quelqu'un qui m'a appris énormément de choses, qui est une des plus grandes improvisatrices francophones aujourd'hui sans aucun doute. Parmi ces gens-là, il y en a qui étaient effectivement extraordinaires, et il y en a d'autres qui étaient plutôt renfermés, qui étaient pas forcément dans le partage avec le public, avec la nouvelle génération, et qui avaient tendance malgré tout, malheureusement, à fermer certaines portes. Et pendant quelques années, ce sont des choses qui m'ont un peu traumatisé. Et je me suis juré que si un jour j'arrivais à faire quelque chose dans ce milieu de l'impro, j'aurais un comportement inverse et qu'au contraire, on essaierait de s'ouvrir au maximum de gens et non pas de se fermer, parce que je pense que l'avenir et la paix ne sont possibles que quand on s'ouvre aux autres au lieu de se renfermer dans des communautés. Et c'est ce qu'on essaye de faire vraiment aussi pour ça avec toute l'équipe de Colors. Et par bonheur, et j'imagine aussi par choix, que ce soit Franck ou toutes les équipes de Colors, ben on a la chance d'être entouré de gens qui artistiquement évidemment sont au top, techniquement ils savent faire, mais aussi humainement, comme dirait Astier, j'ai adoré ce qu'il a dit l'année dernière dans une interview, il a dit je ne travaillerai plus avec des gens avec qui je n'ai pas envie de déjeuner. Et ben voilà, tous les gens avec qui on est à Colors sont des gens avec qui on a envie de déjeuner, de dîner, de passer des soirées, d'être amis pendant des années, parce que c'est des gens qu'on aime en plus de les respecter artistiquement et techniquement.
C'est pour ça qu'on grossit ensemble, à force de trop manger.
Voilà, enfin pas trop grossir quand même, hein, y a des limites à tout. Mais
voilà. Bon, alors justement, on redit à nos auditeurs, hein, s'ils veulent venir grossir avec vous un petit peu.
Oui, on leur redit que c'est au Théâtre du Splendide.
Voilà, c'est au Théâtre du Splendide, c'est tous les dimanches à partir de 20h30.
Alors, 20h.
20h, parce que, et oui, ça tu l'as pas dit encore.
Vas-y Franck, raconte-nous les horaires exacts.
Alors, à partir de 19h même, 19h40, 45, nous avons une première partie qui commence, qui sont les élèves de notre école. Voilà, on donne 3/4 d'heure, la possibilité à des élèves de notre école de jouer devant un public dans un vrai théâtre, ça. Donc ça commence, voilà, la première partie commence à 19h40. Donc vous pouvez venir, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez venir à 19h40, voir la première partie, et vers 20h35, Colors commence. Voilà, c'est l'enchaînement, ça s'enchaîne, les deux s'enchaînent. Vous n'avez pas à changer de fauteuil, à rester, voilà. Donc vous restez dans votre fauteuil et les deux spectacles s'enchaînent.
Donc ça, déjà, c'est agréable parce que vous pouvez voir des gens différents, et puis ça vous permet de voir aussi le work in progress de ces élèves qui, parmi ces élèves qui ont fait cette première partie il y a des années et des années, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui font partie de l'équipe de Colors, parce qu'à un moment donné, ils ont un niveau technique qui fait qu'ils peuvent avancer un peu dans la proposition artistique, quoi.
Très bien. Donc, 19h40, première partie.
Oui. Voilà, et sinon, vous pouvez arriver jusque 20h20, 20h25, quoi.
Et deuxième partie, du coup, Colors. Voilà. Au Splendide, tous les dimanches soirs.
Tous les dimanches, Colors au Splendide, ouais. C'est avec un bonheur vraiment qu'on accueille les gens. D'ailleurs, souvent, enfin, moi je suis souvent en haut, Franck aussi, on accueille les gens, on leur donne les fiches de thème. Franck ou moi, on aime bien quand les gens cherchent des places qui sont pas bien placées, ben on va en salle pendant la première partie, on les aide à trouver des bons sièges, on donne des réhausseurs aux enfants. Enfin, voilà, on a vraiment envie.
Toujours ce partage.
Avec on est un peu dans l'artisanat, hein.
Mais oui.
On peut le dire, on est des petits producteurs indépendants. Donc on a notre cœur à donner plus que des moyens financiers.
Pour nous, le public fait vraiment partie du spectacle, donc on fait attention aussi au public.
Voilà.
Bon, mais alors dites-moi, le show, là, il a séduit des milliers de spectateurs, parce qu'on va bientôt fêter ses 20 ans.
Alors, on va surtout fêter la 600e en juin.
Waouh.
Voilà. Alors 600, c'est pas forcément impressionnant, mais quand on sait que c'est tous les dimanches depuis 18 ans, ça prend un peu plus d'envergure.
Ça doit être un boulot d'organisation de fou.
À ma connaissance, c'est le spectacle qui a duré le plus longtemps, en tout cas ici d'improvisation, je parle, hein. Le plus longtemps. Et oui, c'est du travail. Alors c'est beaucoup Esteban qui s'occupe de l'organisation, de par exemple de trouver des invités, parce que toutes les semaines il faut une nouvelle personne sur scène qui est trouvée. Donc ça, je pense que c'est ça.
Qui va accepter
et qui va aussi oser aussi au-delà d'accepter, c'est aussi oser se mettre, parce que on comprend, hein, c'est un petit défi, c'est une mise un petit peu en danger pour l'invité qui a jamais fait d'impro, parce que le principe de l'invité, c'est qu'il n'a pas fait d'impro ou très peu d'improvisation théâtrale. Voilà, c'est vraiment faire partie du spectacle de ce biais-là. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, comme on dit.
Et alors, plus la personne est connue, plus évidemment sa mise en danger est conséquente par rapport à sa notoriété ou par rapport à l'image qu'elle veut véhiculer. Donc, plus c'est difficile, sauf exception, de convaincre la personne, de parce qu'évidemment, l'invité, on ne rémunère pas nos invités. Ils peuvent inviter des gens, les inviter à dîner pour les remercier, mais ça n'aurait pas de sens. Ce sont nos guests et ce ou cette guest va risquer finalement sa notoriété plus elle est connue, quoi. Donc c'est tout à son honneur d'accepter ce challenge, d'autant plus quand elle a une réputation à défendre.
À défendre,
par exemple, quoi. Comme on a eu il y a pas longtemps, il y a Pablo Mira qui était super flippé. Qui avait jamais fait d'impro, quasiment jamais, et qui a été ce qu'on imaginait d'ailleurs, à la fois un homme délicieux et avec des fulgurances et des propositions qui ont fait qu'on a vraiment passé une soirée mais absolument merveilleuse, quoi, devant un splendide plein à craquer. Donc c'était un bonheur de jeu, de rendre les gens heureux, de voir qu'il y avait du monde, et c'était extraordinaire. Voilà. Des moments souvent qui sont assez magnifiques.
Il y a un autre côté de l'organisation, comme tout spectacle, c'est le côté, est-ce qu'il va y avoir du monde? Déjà pour l'envie de partager, et puis même aussi sur le côté financier. Enfin voilà, il faut
que
ça
soit... Oui, c'est une production. Hein.
Voilà, exactement. Et il y a un petit peu tous ces aléas de la vie qui font, même de l'année, des fois, que ça soit à Noël, pendant l'hiver ou pendant l'été, c'est pas la même chose. Et puis même tous les aléas, pendant le Covid, ça a été très très dur. Et puis, est-ce que les gens vont vouloir revenir aussi ou rester devant Netflix parce qu'ils ont beaucoup ont découvert tout ce qui était...
Ils ont pris l'habitude des plateformes.
Voilà, à la maison. Donc, voilà, il y a tout ça aussi qui fait que dans l'organisation, il faut voir ce qui marche, ce qui marche pas, les différentes manières de communiquer aussi qui peuvent évoluer tout au long de 18 ans. Il y a 18 ans, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux.
Et puis, j'imagine aussi l'actualité du moment.
Bien sûr. Économique et autres, quoi.
Ici, il fait froid pendant 15 jours, il pleut, et puis que le dimanche après-midi, tout à coup, il fait 16 degrés et qu'il y a du soleil, le dimanche soir, c'est mort, quoi. Les gens, ils vont aller boire un verre en terrasse et ils auront raison. Si finalement, c'est la finale du championnat de France et qu'on a, ça arrive souvent, PSG, OM, le dimanche soir, c'est mort. Si à domicile, qui frappe l'Iran ou Israël, le dimanche après-midi, c'est mort. Si on apprend qu'il y a un nouveau virus qui vient de sortir et qu'il faut rester chez soi, c'est mort. Enfin, vous avez compris le principe.
Oui.
S'il y a une manifestation, et il y en a tout le temps, qui va de République à Place de l'Opéra en passant par Strasbourg-Saint-Denis, on peut plus accéder, les voitures peuvent plus accéder, les stations de métro sont fermées, c'est mort, etc., etc., quoi.
Mais malgré tout ça, vous êtes toujours là.
L'instant, on survit.
Et donc c'est ça, pendant tous ces 18 ans, oui, il y a des choses ponctuelles comme trouver des invités qui sont là, mais il y a aussi quelque chose de plus lourd, c'est la gestion humaine comme ça et de la société qui évolue et que faut tenir sur la longueur, sur 18 ans, faut aussi gérer tout ça et on se rend peut-être pas compte tout de suite. Au premier abord, il y a ça derrière. Comment on fait évoluer le spectacle qui va avec la société, qui évolue avec la société?
Et en fait, plus moi j'avance, je commence à devenir vieux, je commence à être un vieillard. Je suis vieux, merci Franck. plus j'avance et plus je me dis que même s'il y a indubitablement un aspect technique, un aspect commercial, un aspect communicant pour remplir les salles, il y a aussi une sincérité et il y a ce qu'on a appelé de la générosité tout à l'heure, mais c'était un peu de la pudeur pour dire c'est un peu de l'amour finalement. Et je me faisais cette réflexion en parlant avec une amie il y a pas longtemps qui n'a rien à voir, mais quand même que quand on arrive aux portes de la mort, quand il nous reste quelques minutes ou quelques secondes à vivre, a priori, ce qui se passe en tout cas, ce que démontrent les messages qui sont envoyés, les gens qui parlent, etc., avant de mourir, c'est qu'ils n'ont en tête que les gens qu'ils aiment. Et il ne reste que l'amour à la fin. On pense les gens qui nous emmerdent ou les problèmes qu'on a, on les ressasse la nuit quand on n'arrive pas à dormir ou on a une boule au ventre la journée, etc. Mais quand on va mourir, on pense plus aux gens qu'on déteste, ou qui nous ont emmerdés, on pense aux gens qu'on aime. Et ça prouve donc que c'est quand même, in fine, ce qui est le plus important. Et si on essaye d'aller dans cet amour, dans cette générosité, peut-être que les choses peuvent fonctionner. En tout cas, elles ne pourraient pas fonctionner autrement, à moins d'être fake, archi-fake, et le fake, à un moment donné, s'effondrant.
Bon, alors nous, on reste dans le vrai. On va faire une petite pause musicale encore, la dernière, et juste après, on va parler de l'école, de l'EFIT.
Ah,
et
oui.
Puis vous nous livrez encore quelques petites anecdotes, quelques petits secrets sur vos invités.
Peut-être, ce que tu veux.
Super. Bon, alors on va écouter Crazy. C'est la deuxième chanson que vous avez choisie, les garçons.
Oui, parce qu'elle est dans le spectacle Color. C'est un moment clé, celui où des différentes couleurs proposent différents pitchs, différents débuts d'histoire, et le public va encore ensuite choisir son histoire et résonne quand la lumière se rallume et que les couleurs sont installées sur scène ensemble. La voix et la musique bien particulière du groupe Niers Barclay.
Super. Allez, on écoute et on se retrouve juste après pour les dernières minutes de l'émission.
Non.
On le garde ce morceau-là ou pas, les garçons? Bon, on est dans le reteux. Oh là là.
On est dans le reteux. Allez, on est dans le reteux. Allez, c'est parti sur IDFM Radio 98.
Je connaissais pas. Merci de me faire découvrir le reteux.
C'est un terme de radio, Franck, le reteux, bien sûr.
Pardon.
Donc on est toujours sur le plateau des secrets de la servante sur IDFM Radio.
Mais ils savent, les gens, à quoi ça fait référence, le titre de ton émission?
Mais bien sûr, ça a été dévoilé dans les premières émissions. Et puis s'ils sont curieux, ils vont réécouter les podcasts.
D'accord, ok. Voilà, parce que la servante, c'est quelque chose d'incroyable au théâtre, mais on ne dira pas quoi. Allez voir, allez écouter les podcasts.
Mais oui, il faut aller écouter les podcasts, mais on peut le redire. C'est cette petite lumière qui brille quand le théâtre se vide. C'est l'âme du théâtre qui reste toujours éveillée. Bien, donc, Nous sommes toujours en présence de Esteban Perrois et Franck Porquier.
Eh oui.
On tient bon.
On tient bon là-bas.
Qui sont depuis de nombreuses années comédiens d'improvisation sur le spectacle Colors que nous pouvons voir tous les dimanches soirs au Splendide à partir de 19h40.
Oui.
Et il y a aussi cette école, parce qu'on peut se former à l'improvisation théâtrale avec vous, les garçons.
Oui, on peut se former. Il y a même on peut dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont formées depuis presque 28 ans à l'école française d'impro théâtrale, dont je m'occupe avec Franck, entre autres, et puis une vingtaine de formateurs, formatrices, des assistants, des assistantes, tout un aréopage de personnes formidables dont le but est le bien-être de nos élèves pour leur enseigner, leur transmettre l'art de l'improvisation théâtrale avec des cours tous les soirs de 20h à 23h, avec des cours le samedi matin, avec des stages de découverte ou des choses en rapport avec de la professionnalisation, du clown, du théâtre. Vraiment beaucoup de disciplines à l'intérieur même du cursus impro. Et ça se passe à Paris dans le premier, entre Pyramide, Tuileries et Opéra. Voilà, et on accueille les gens, il suffit qu'ils nous appellent, qu'ils aillent sur le site internet et ils peuvent nous joindre au téléphone très vite, s'ils ont n'importe quelle question, on est là pour eux.
Ok, et donc un super tremplin culturel aussi pour les adhérents, pour les élèves, puisque la possibilité derrière de jouer en avant-première sur en première partie
en Colors. Entre autres Colors, oui, mais exactement, c'est... Il y a plusieurs niveaux chez nous, parce que, faut bien commencer. Un bout d'un moment, dans n'importe quelle chose, on est débutant. Et donc, on va pas faire monter sur la scène d'un grand théâtre devant 200 personnes un débutant qui a que 4 mois d'improvisation. Par contre, cette personne a quand même le droit de jouer. Donc, l'école organise plein d'autres moments où, là, dans des cafés, dans des théâtres, mais peut-être plus petits, plus intimistes, où la personne sera pas trop stressée de monter sur scène, puisque maintenant on sait ce que c'est de monter devant 3000 personnes, devant 1000 personnes. On peut peut-être pas commencer par ça. Donc voilà, on organise des spectacles selon le niveau pour la personne. Mais la personne qui a 3 mois d'impro chez nous pourra jouer.
Si elle veut. Elle n'est pas obligée. Si elle veut. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas jouer, d'autres qui adorent ça.
C'est exactement ça. Donc voilà, on organise dans des bars des différents...
Des salles municipales, etc.
Types d'improvisation qui correspondent aussi au niveau. Voilà.
Ok, des événements, des ateliers, des stages.
Il y a en moyenne entre 2 et 3 événements ou spectacles par semaine pour les élèves, des masterclass, des rendez-vous dans des bars. Voilà, donc ça, il suffit d'aller sur improvisation.org ou même sur un truc qui est très bien, qui s'appelle bio.site/EFITimpro. Vous tapez EFIT, école impro, spectacle, vous allez trouver tous les spectacles d'élèves à Paris et c'est quasiment toujours gratuit, où il faut prendre une boisson à 4 euros. Enfin, voilà, c'est rien, quoi.
Super.
Et donc, dans l'école, c'est pour ça qu'on s'est dit école, c'est parce que tout le monde peut venir, même des débutants. Donc, ça va de débutants jusqu'à professionnels dans l'école.
Génial.
Voilà, il y a une transmission. Alors, c'est une bonne ambiance, c'est ludique, c'est fun, mais en même temps, il y a une transmission technique qui est vraiment un peu exigeante dans le respect, dans le plaisir, mais dans l'apprentissage.
Merci, les garçons.
Merci Christelle de l'avoir reçue.
Ouais, on peut vous retrouver tous les dimanches soirs au Splendide dans Colors.
Oui.
Super. Merci du coup à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
Ben avec plaisir. Et sur Instagram, Colors Impro, EFIT Impro. Merci à Francky qui a été formidable.
Merci.
Tout 4 à fois. Fait.
Et Christelle qui est une, mais les auditeurs, les auditrices le savent, mais moi je la connais depuis plus longtemps que vous. Je la connais depuis plus
sûr.
De 15 ans. Et c'est une femme absolument formidable, une entrepreneuse brillante.
Et moi j'ai une question, pourquoi tu es toujours habillée en servante pour faire l'émission? Ça va avec le...
Point du tout, il ment, ça n'a absolument rien à voir.
Non, je dois dire qu'elle a des baskets, pas été violée, je pense que c'est un message à Mr. Purple.
Pourquoi pas? Comment tu as deviné? Bon, merci à tous, merci à Esteban, merci à Franck, merci à Francky pour la technique, merci à IDFM de nous diffuser. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet d'IDFM Radio à la page des secrets de la servante. Je vous l'avais dit, on devait faire 30 minutes. Au final, on a fait 1 heure. Et nous, merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, samedi à 16h pour une nouvelle émission. Et d'ici là, soyez joyeux, improvisez et consommez de la culture.
Eh oui, bisous.
Bisous, au revoir tout le monde.